Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Salut, moi c'est Alice Vacher et dans l'empreinte, j'essaie de comprendre comment les marques s'engagent et agissent concrètement dans la transformation positive de notre société. Mon objectif est simple, décortiquer et mettre en lumière les initiatives sociales et environnementales des entreprises pour vous inspirer et vous éclairer sur ces sujets. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Vauters, le PDG du groupe Rossignol, le fameux groupe qui fait... Moi, Rossignol, c'est les skis, hein,
C'est l'origine, 116 ans. Ça a commencé dans un petit atelier, c'était Abel Rossignol, menuisier, et qui a fait les premiers skis en bois...
En son nom. En bois, oui, c'est vrai qu'à l'époque... Et ça, c'est une marque qui a évolué, qui s'est étoffée.
C'est une marque qui a évolué. Alors, quand on parle de résilience 116 ans, ça fait plusieurs générations d'hommes et de femmes qui sont passés à travers des époques bouleversées. Aujourd'hui, on se remet aussi en cause et on essaie de se préparer pour l'avenir.
Justement, on va en parler. Et puis, on voit aujourd'hui que la pratique du ski, notamment des sports de montagne, est un peu remise en question. Et est-ce que vous avez commencé à revoir un peu votre offre, justement ?
Oui, alors il y a plusieurs dimensions. On se diversifie pour être aligné avec les activités qui ont déjà lieu dans la montagne. Donc c'est un espace qui est neutre depuis 116 ans. L'espace, les consommateurs, les partenaires commerciaux. Donc ce qu'on ajoute maintenant, c'est des nouvelles activités. On a lancé le vélo de montagne en mars l'année dernière. On lance cet été des chaussures de randonnée et puis on va aller vers la course en montagne, etc. Donc pour accompagner les consommateurs. Quatre saisons, toute activité.
Et est-ce que justement, toi, tu as pu voir une baisse des parts de marché liées au ski ou pas encore ?
Les gens continuent à aller skier. Donc, il n'y a pas... C'est un marché mature, donc il évolue pas beaucoup. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un taux de participation, en tout cas d'engagement avec la montagne, qui augmente. C'est-à-dire que dans des périodes très troublées où il y a beaucoup d'anxiété... La montagne, c'est de tout temps, c'est un lieu de ressourcement mental et physique. Et donc, on voit qu'il y a un attrait pour la nature en général, mais la montagne en particulier, qui est très fort, et c'est mondial.
Mais avec le réchauffement climatique, les stations ont un peu des problématiques quand même pour ouvrir, manque de neige, etc. Donc, j'imagine que ça se ressent quand même in fine sur vos résultats, non ?
Alors, ce qu'on voit, c'est pas mal d'aléas d'enneigement. Et ça concerne surtout les stations de basse altitude.
Oui, bien sûr.
Donc, là où il y a plus de variabilité, c'est notamment pour le ski de fond, parce que c'est fait en basse altitude et il y a moins de neige de culture en basse altitude. En haute altitude, en fait, les fenêtres de ski bougent un peu. Ça commence typiquement un peu plus tard, mais ça continue aussi un peu plus tard. Ça se réchauffe, donc le ski d'après-midi est moins confortable. Mais en haute altitude, l'activité continue. Donc là, ce qu'on essaie de comprendre et d'anticiper, c'est ce qui va se passer dans les 15-20 ans qui viennent.
Nous aussi, on aimerait comprendre, parce que la question de tous mes auditeurs, c'était est-ce qu'on va pouvoir continuer à aller skier ? Puisque je crois, comme tu le disais, c'est vrai que c'est un sport qu'on aime tous quand on a pu le pratiquer, bien sûr, puisque ça reste un sport un peu... Tout le monde ne peut pas aller au ski, ça coûte très cher, il faut quand même le rappeler. C'est un sport, j'allais dire élitiste, mais ce n'est pas élitiste, pour des personnes quand même favorisées, ou alors des personnes qui n'ont pas forcément énormément d'argent, mais c'est leurs vacances de l'année, quoi. Donc voilà. Et notamment, moi, le ski, j'ai en tête la location. Alors, ce n'est pas forcément les meilleures heures passées à essayer les chaussures et les skis, mais tu vois, il y avait déjà une espèce de réemploi et de circularité. Et finalement, les skis, on les faisait réparer, etc. Aujourd'hui, tes plus gros consommateurs, ça reste les magasins, les boutiques de ski où les gens vont acheter leurs propres skis. Enfin, est-ce que l'usage a pris le dessus sur la possession ou est-ce que finalement aujourd'hui on a tous nos skis ?
Non, le mouvement vers la location est engagé il y a déjà de nombreuses années. Et peut-être...
Donc pour le prix aussi, j'imagine.
Oui, en gros, c'est deux tiers. Hein, 60-65%.
Sur la location ?
La location.
Ah oui, c'est énorme.
Donc c'est déjà en France. Alors, c'est pas partout pareil dans le monde. En Amérique du Nord, c'est plutôt 25-30%. Donc, il y a plus de désir de propriété, mais c'est une dynamique un peu différente. Les gens ont un peu plus d'espace, il y a des garages, les voitures sont plus grandes, etc.
Oui,
etc.
Les gens ont des voitures, il y a tous.
Voilà. Donc, c'est un peu différent comme dynamique, mais partout dans le monde, ça va vers la location. Et en France, c'est déjà très engagé, parce que c'est 60% à peu près des ventes. Alors, sur la question du ski... ce qu'on voit, c'est qu'il y aura des fenêtres plus courtes de période skiable. Il y a quand même une visibilité jusqu'en 2040-2050. Et c'est là où je pense que la problématique, évidemment, elle est très emblématique et très visuelle, visible pour la montagne. Parce qu'on voit la neige, on voit l'activité. Mais d'ici à 2050, c'est l'ensemble de l'activité économique qui va être bouleversée. Et des secteurs sont bouleversés plus tôt que le ski.
Oui, donc en fait, toute la station de ski va vraiment se réinventer pour être réversible. C'est-à-dire vraiment sur une très courte période, parce qu'avant, c'était quand même sur une assez longue période, c'était presque la moitié de l'année qu'on pouvait aller skier. Là, maintenant, ça va se réduire à quelques mois. Et encore, et peut-être du coup devoir se réinventer, mais comme vous le faites.
Voilà, et c'est déjà en cours. Hein. Il y a des stations comme Whistler au Canada, où ils font plus de chiffre d'affaires en été qu'en hiver. Et donc, c'est les mêmes équipements, mais qui vont être utilisés pour du vélo de montagne, la randonnée.
Rafting, canyoning, voilà, tout ça.
Voilà, exactement.
J'adore. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la montagne l'été. C'est vrai que c'est magnifique et tout aussi ressourçant. Et il y a moins de monde aussi, parce que l'hiver, c'est un petit peu surpeuplé finalement.
Ouais, en hiver, c'est plus concentré.
Ah ouais, c'est concentré quand même.
Très concentré.
Mais alors, donc là, on a parlé de la durabilité, etc. Et côté impact même de vos produits, comment vous faites pour le minimiser? Parce qu'aujourd'hui, on essaye tous de minimiser. Enfin, on essaye tous. Je n'ai pas ma marque, ma propre marque, mais tous les retailers essayent de minimiser l'impact de leurs produits. Comment vous faites?
Alors, on prend les quatre dimensions. Donc, on a essayé d'être le plus systématique possible et puis le plus transparent possible. Il y a une première approche qui est de faire moins mal ce qu'on fait déjà. Et puis après, on essaie d'aller plus loin pour voir comment pour avoir un nouveau business model. Qu'on a développé à travers la Convention des entreprises pour le climat et qu'on a publié en octobre. Mais la première étape, c'est de faire moins mal ce qu'on fait déjà. Et ce n'est pas forcément facile.
Ah bah non, mais vous avez calculé, j'imagine. Déjà, la première étape, c'est de calculer ses émissions de CO2.
Voilà, on a calculé notre empreinte. Et puis là, on est engagé dans Science Based Target. Donc, on va pouvoir mesurer la crédibilité de notre démarche pour arriver aux objectifs. Parce que juste communiquer des objectifs, bon, c'est peut-être bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on a une première étape où on cherche à produire avec le moins d'émissions de CO2, donc des produits.
Ça fait comment d'ailleurs? Pas tous, on va dire, vos produits phares, des skis. Enfin, moi, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais ça fait comment des skis?
Alors, des skis, pour faire simple, il y a deux méthodes. Alors, soit c'est des sandwichs, c'est-à-dire qu'on va mettre différentes matières qu'on va superposer.
Peut-être que vous êtes boulanger.
Et qu'on va cuire.
D'accord. Voilà. Puis c'est quoi ces matières? Parce que tu vois, finalement, tu mets quoi comme matière?
Alors, c'est... Il y a eu une prolifération de matières. On a commencé par des skis 100% bois, mais il y a déjà des années. Et puis, au fur et à mesure...
On va peut-être y revenir, tu sais.
Ben, c'est ce qu'on est en train de faire. On redécouvre, en fait, des méthodes qu'on avait et des types de bois qu'on utilisait dans le passé. Et on redécouvre, en fait, un savoir-faire qu'on n'a plus utilisé depuis des années.
Donc, en plus, on skie tout aussi bien, non? Un petit peu moins bien, peut-être, quand même. Bois... Ah, allez, moi, je peux descendre une petite bleue avec des skis en bois.
Ouais, alors, il faudrait peut-être pas essayer avec des sites qui étaient produits il y a 50 ans, parce que ce serait compliqué.
C'est comme les palettes, quoi. On a l'impression que c'était un peu tout droit. Mais, oui.
Mais là, on a, par exemple, lancé... Alors, on a lancé deux skis. Un sous la marque Dynastar, un sous la marque Rossignol. Il y en a un qui est focalisé sur la réduction des émissions de CO2 à la production, et l'autre qui est focalisé sur la capacité de recyclage en fin de vie.
J'allais te demander, tu vois, tu m'as devancé sur la question.
Comment l'idée, c'est qu'on cross-fertilise
les deux.
Mais on a utilisé une marque pour aller motiver l'équipe dans une dimension et l'autre dans la fin de vie.
Parce que finalement, les matériaux plus nobles sont moins recyclables. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Parce que finalement, quand tu mets des matériaux moins polluants, pourquoi est-ce qu'ils seraient moins recyclables que des matériaux plus polluants?
Non, typiquement, ils sont mieux recyclables.
Oui, donc pour... tu peux avoir les deux facilement, j'imagine.
Alors?
Non. Je me vois ta tête.
Ouais. Alors,
c'est le process de recyclage qui va être.
Donner un exemple. des matières métalliques sont faciles à séparer en fin de vie à travers des éléments magnétiques ou autres. Mais par contre, le métal a un impact CO2 très élevé.
Je vois ce que tu veux dire.
Donc, par exemple, on a une structure qui s'appelle Hybrid Core 2.0, peu importe, c'est la structure Dynastar qui est fabriquée à Sallanges, près du Mont-Blanc. Les deux, d'ailleurs, hein, on a décidé d'utiliser notre usine de Sallanges, qui est la dernière usine de ski en France, pour la transformer en première usine mondiale d'éco-conception et de gestion de fin de vie. Donc, c'est assez motivant
c'est
pour
trop
les
bien.
Équipes.
Ouais. Ouais, je trouve que ouais, c'est génial. Ouais, ouais. C'est hyper emblématique, en plus.
Bah ouais,
puis ça fait un peu d'emploi aussi, là-bas. Je
puis c'est une projection positive par rapport ouais. à un devenir qu'il faut gérer, hein, qui n'est pas facile, mais qui est positive.
Justement, en parlant de collectif aujourd'hui, en matière d'écologie, de durabilité, les entreprises fonctionnent ensemble. Est-ce que toi, tu as des exemples à me citer en ce sens-là, de, je sais pas, de choses que tu as mis en open source ou que tu as co-créées avec d'autres entreprises?
Oui, donc ça, c'est sur notre ski hautement recyclable, hein, qu'on a appelé Essentiel. Qui a été issu de cette co-conception avec la société MTB. On a fait ça ensemble, mais on a été plus loin. On a décidé de partager la composition du ski en ligne, donc qui est accessible à tous nos concurrents. Et c'est quelque chose qui ne s'est pas...
Donc on peut refaire le même, en fait.
On peut refaire le même. Tous les composants sont là. Et donc l'idée, c'est un...
C'est génial. C'est... Moi, je trouve ça génial, hyper audacieux.
C'est vraiment... C'était pas du tout évident, parce qu'on a, pour donner un peu une idée hein, de la conception de ce ski, la plupart de nos skis, on va faire jusqu'à 17 protos, 15-17 protos, prototypes. Là, on en a fait 83.
Et tu l'as partagé.
Et je l'ai partagé. Donc, en interne, ça n'a pas été forcément...
Moi, j'adore. C'est comme si je partageais une recette de cuisine. Enfin, moi, de toute façon, personne ne la prendrait. Je suis une mauvaise cuisinière. Mais oui, c'est... Bah, moi, tu vois, ça m'encourage. Parce que je trouve que c'est... Enfin, ça m'encourage pas moi, mais je trouve que c'est hyper encourageant. Parce que ça montre une totale transparence, en fait. Il n'y a plus de concurrence, en fait, finalement.
Bah, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné... Alors, là, j'ai dû un peu expliquer en interne, hein, parce que c'est atypique, ça ne s'est jamais fait dans l'industrie, à ma connaissance. Hein. Parce qu'on a...
Non, tu montes les produits, mais tu caches certains trucs de la recette, tu vois.
Voilà.
Tu vois, tu ne montes pas tout.
Et il y a un côté un peu autiste hein, dans les modes de fonctionnement économique où chacun veut gagner des parts de marché. Donc, c'est l'idée un peu de zero-sum game, on gagne, les autres perdent. Là, je pense que pour le monde qui vient, il faut une dynamique de partage et de développement qui est autre. Et il y a une raison très pragmatique hein, aussi derrière ça, c'est que je n'ai pas de modèle économique pour assumer tout seul la collecte et la mise en valeur des matières premières.
La mise à l'échelle de l'innovation.
Voilà. Et donc, mélanger des skis vertueux avec des skis qui ne le sont pas, on a tout perdu. Donc, il faut des filières dédiées et je n'ai pas l'échelle. Donc, il faut que j'emmène. Il faut que j'emmène tous mes camarades de jeu pour que tout le monde y gagne, alors qu'ils fassent des skis similaires ou inspirés ou différents, mais aussi vertueux, bah, tant mieux. Mais il faut qu'on avance tous ensemble. Et c'est la même chose en fin de recyclage. Les matières premières, si je n'ai pas déchets, je n'arrive pas à les valoriser. Donc, je n'aurai pas de modèle économique. Donc, on est obligé d'avancer ensemble.
Mais c'est très, très juste ce que tu dis sur... parce que je fais pas mal de reportages et sur la séparation des matériaux, parce que pour les recycler, en général, il faut tout séparer. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet. Et finalement, ce n'est pas forcément les matériaux les plus nobles qui sont les plus facilement séparables et du coup recyclables.
Voilà. Mais il y a vraiment, c'est intéressant parce qu'on a une structure de ski avec un moins de métal et de minerais,
ouais.
Mais on a encore la fibre de verre qui est difficile à recycler, mais on a une réduction de 25% de CO2 et 55% de matière minérale et métallique. De l'autre côté, on a zéro fibre de verre, on a diminué très fortement les résines, on a diminué le nombre de composants, c'est essentiellement du bois, du fer, de l'aluminium. Alors, on va apprendre et on va trouver un équilibre entre les deux, mais les deux sont assez radicaux dans leur structure, parce qu'il y en a, on réduit fortement les émissions de 30% si les particules fines. Donc ça, c'est avec Dynastar. Et de l'autre côté, un ski traditionnel, on le recycle seulement à 6%. Ça veut dire que 94% au mieux sont brûlés, c'est déjà pas top.
Ouais.
Et au pire, c'est enfoui.
Ouais, c'est ce que tu me j'allais poser la question, ça finit comment ouais. Bah, tu prends un Dynastar et un Rossignol, tu prends un ski de chaque, et puis comme ça, au moins, tu as l'équilibre.
Mais on va essayer de cross-fertiliser les innovations.
Et c'est ça, pour chercher.
On a réussi maintenant un ski qui est recyclable à 77%.
C'est quoi, du coup, les 27% qui manquent? Attends, 77, non, 23. Désolé, mon cerveau m'a...
Voilà. Les 23, C'est la base des matières plastiques qu'on n'arrive pas à séparer.
Il y a toujours du plastique. Hein.
Ouais. Ce qu'on arrive bien à faire, c'est métal, l'aluminium, le fer, le bois.
On ne pourrait pas mettre du, je pose des questions bêtes, hein, du bois à la place du plastique, non ? Ben non, pour le clap, c'est compliqué. Ouais.
Bon, on est, en fait, pour l'instant, ce qu'on a décidé de faire, c'est important, c'est de garder, garder le niveau de performance et vraiment d'améliorer l'éco-conception. Ce qui était intéressant dans la démarche, c'est qu'on a réussi à le faire en collaboration avec une société qui fabrique des machines de recyclage de câbles électriques, MTB. Dans, je dirais, dans le monde d'avant, jamais on l'aurait parlé, mais dans le monde, quand on prépare le monde qui vient, ben on essaie de comprendre tous les intervenants de la chaîne de valeur. Et avec eux, on a compris leurs contraintes et leurs atouts en termes de machines et de process. Et eux, ils ont compris la construction de ski. Du coup, ensemble, on a modifié machine et ski pour avoir ce résultat. Super. Et on arrive à 77% de récupération de matière pure, sans utilisation d'eau, sans utilisation de produits chimiques, uniquement avec du magnétique, du vent, des tamis, etc.
C'est génial que tu en parles de ça, parce qu'on oublie que dans les process de recyclage, il y a aussi de la consommation d'énergie. Et donc, que c'est pour ça que parfois, en fait... C'est pas forcément, enfin, c'est toute une question de calcul et d'équilibre. On en parlait tous les deux avant. Il faut calculer même l'impact du recyclage du produit. Donc, c'est. J'ai l'impression que oui, t'as vu, toi, tout l'écosystème. C'est quoi tes next steps? Je crois que vous êtes engagé avec le groupe sur 2026. Tu m'as dit, bon, c'est bien de sortir des objectifs, mais il faut expliquer ce que c'est, enfin, concrètement, ce que vous faites. Mais c'est quoi vos objectifs, en fait? Moi, je ne me les ai pas donnés, finalement.
Alors, on a un objectif qui est, au niveau business, on s'est mis un niveau de résultat. On a prévu, en termes de modification profonde de notre gamme, d'avoir un tiers de notre gamme d'ici à 2028, un tiers qui tiendra cette philosophie de
éco-conçu.
Un tiers de la gamme. Donc, ça veut dire...
changer quand même pas mal.
C'est un changement radical. On a mis aussi... On a avancé un peu en marche rapide, mais on a lancé le deuxième choix, la deuxième vie. On va lancer la deuxième main. On prépare aussi la reconversion de production à réparation, parce qu'on a un rôle social, on a des usines, on a des ouvriers, on a des familles qui dépendent de ce travail-là. Donc, il faut qu'on anticipe comment on va continuer à être acteur d'une chaîne de valeur, mais une chaîne de valeur réinventée, plus durable. Et donc, la réparation, c'est un des éléments. Donc, quand on se met à horizon, alors 2026, c'était un objectif financier, mais si on se met 2026-2028, on aura un tiers de la gamme qui va être complètement repensée. Ça veut dire aussi diviser pratiquement par deux le nombre de matériaux. Ça veut dire planter nos propres forêts dans des lieux où il n'y avait pas de forêt.
Tiens, justement, ça m'amène à une question. Le groupe qui est très implanté dans la montagne, est-ce qu'il y a justement une volonté de préserver votre environnement, la biodiversité ? Est-ce qu'il y a des engagements forts pris par le groupe là-dessus ou pas du tout ?
Alors, c'est un élément qui touche tous les employés profondément, parce que c'est les amoureux de la montagne.
Bah oui, bah, j'imagine. Hein, quand... Ouais.
Et on a une des. Bon, quand je suis arrivé en février 21, ben, une des premières choses en arrivant pour.
Est-ce que tu skis?
Alors, oui, ça, c'était quand même une condition. Hein. Alors, même si je suis pas un bon skieur, moi, je viens d'un pays qui est pas connu pour ses montagnes, donc j'ai appris tardivement. Mais pour mener le changement, comme le changement vient toujours des hommes et des femmes qui composent les entreprises, ben, il y a un moment un peu de recul pour se dire ben, pourquoi on est là? Quelle est notre raison d'être? Quelles sont nos valeurs? Et donc, ce travail, on l'a fait avec les équipes. Et ce qui est ressorti, ben, c'est y a un engagement pour le potentiel humain à travers la performance. Donc, c'est le sport. Ça, c'est quand même la passion du sport. Après, il y a deux choses qui sont sorties de manière très forte. C'est l'engagement écologique et l'inclusivité. Et donc, je pense que c'est vraiment... on parlait de carrefour, de charnière, de moment clé. C'est un moment où il faut que les entreprises assument leur rôle social, leurs valeurs, les expriment, s'engagent et réalisent des choses très concrètes. Et quand ça se met en route, l'énergie créée est énorme.
Est-ce que tu as envie de devenir, enfin, t'as envie, est-ce que toi et le groupe, vous avez envie de devenir société à mission ou c'est pas faisable, selon toi? Après, ça demande pas mal de cases à cocher, hein, c'est vraiment une question, je suis curieuse.
Je pense qu'on va... Il y a dans notre vision un certain niveau de radicalité, parce que alors, ce n'est pas une radicalité esthétique ou activiste, c'est une radicalité, je dirais, de réalité. C'est que les enjeux sont radicaux.
Ouais, et puis vous dépendez vraiment de l'urgence climatique, finalement, même vous. Hein, faut pas.
On
est complètement de ça.
On est complètement lié à ça, mais je pense que le monde va évoluer. Il y aura plus de perturbations sur la gestion de l'énergie et les implications économiques. Il y aura ça bien avant l'absence de neige. Donc la neige est emblématique. C'est visible et c'est réel.
Vous pourrez aller skier, vous inquiétez pas. Mais, c'est ce qu'il est en train de vous dire.
Mais il y aura d'autres choses à gérer avant, au niveau collectif et économique. Et c'est vraiment le nœud de la guerre, ça va être la mobilité, ça va être la biodiversité, ça va être la gestion de l'énergie.
En fait, ça l'est déjà. On est quand même en plein dedans, faut
on
se
est
le
dedans,
dire.
On est dedans.
Est-ce que tu aurais des messages, même un mot de la fin, à passer à nos auditeurs? Des messages qu'on aurait oublié d'aborder ensemble?
J'ai l'impression que c'est important qu'on redécouvre le plaisir de développer ensemble. Essayer toutes et tous de créer une sérénité dans un monde qui ne le sera pas forcément. Ouais. Et je pense que ça peut se faire si les rapports humains sont plus axés sur le partage et la confiance. Et puis surtout, d'être quand même en position de responsabilité pour offrir un monde qui fonctionne. C'est aussi... L'économie et le social sont liés, l'écologie, le social et l'économique sont liés. L'un sans l'autre, ce n'est pas forcément un monde facile à vivre. Donc, je crois qu'il faut s'y atteler. Et si on peut le faire en pensant à l'écosystème, à l'éco-conception, au partage, on a plus de chances d'y arriver.
Bon, tu me dis quand tu fais des skis en bois et je viens les tester.
Parfait.
D'accord. Merci beaucoup d'être venu dans l'empreinte.
Oui, merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.